Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sigoni.
Bonjour et bienvenue dans Le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain ce n'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les champs les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Remonter la botte de l'Italie, caresser le mollet, Rimini, Ravenne, Venise, remontez encore, et au niveau de la Jartelle, vous avez Trieste. C'est là, dans cette ville frontière, dans cette ville portuaire qui donne sur la mer Adriatique, que naît Ettore Schmitz, plus tard connu sous le nom d'Italo Svevo. Trieste, alors dans l'Empire austro-hongrois, est la ville du négoce, du passage et de l'échange. Le jeune Ettore, en bon fils de famille de la petite bourgeoisie, y deviendra commis de banque, et y épousera une cousine éloignée. En 1892, à 31 ans, il publie à compte d'auteur Une vie, un roman psychologique sur les ratés de l'existence, sur ce qu'on n'appelait pas encore les actes manqués et l'auto-sabotage. Suit Sénilita, un roman dont là aussi le personnage principal est un employé de banque triestin qui se rêve homme de lettres et gâche sa vie et celle de ses proches. Plus exactement, les personnages de Svevo ne savent pas vivre, et espère toujours trouver un mode d'emploi. Dégoûté par l'échec de son livre, Svevo n'écrira plus pendant 20 ans. Mais son travail l'amènera à voyager, à découvrir la psychanalyse naissante, à rencontrer James Joyce, avec lequel il nourra une amitié durable, jusqu'à inspirer le Bloom, personnage principal et anti-héros de l'Ulysse de Joyce. Ce n'est qu'en 1923, avec La conscience de Zeno, qu'Italo Svevo connaîtra le succès. Il meurt 5 ans plus tard, en demandant encore une dernière cigarette, dans un geste où se confond sa vie et son œuvre. Qu'en retenir ? Fiction et réalité, temps vécu et temps de la narration, Italo Svevo est au croisement. Au croisement des siècles, puisqu'il publie la première partie de son œuvre, qui culmine avec les romans Une vie et Sénilita, entre 1890 et 1898, puis n'écrit plus pendant 20 ans, avant de reprendre la plume en 1923 pour La conscience de Zeno. Au croisement des cultures, puisqu'il naît et vit à Trieste, alors dans l'Empire austro-hongrois, et qui deviendra italienne. Au croisement des religions, juif de naissance et catholique par mariage. Son pseudonyme, Italo Svevo, est déjà un croisement, puisqu'il évoque les Italiens, Italo, et les Souabes germaniques, Svevo. Svevo est terriblement sérieux, même pessimiste, et pourtant fantasque. L'influence de la psychanalyse se révèle dans tous ses romans, mais prend sous sa plume une grande liberté de ton et d'interprétation. Vous avez déjà vu le ciel de fer planté de campanile au-dessus des façades ocre et rose du nord de l'Italie en hiver ? Le ciel gris se reflète dans la mer grise, mais dans l'air léger, il flotte comme un lazzi. C'est ce qui distingue Svevo, qui, pour d'autres aspects, pour l'importance de l'introspection, des détails intimes, pour l'étirement d'un anti-héros qui joue avec la fiction, a pu être comparé à Proust en France ou à Joyce en Irlande. Chez ses narrateurs, le ridicule ne vire pas à la culpabilité mystique, mais à la bouffonnerie. Ils sont pathétiques, mais jamais pitoyables. Au fond, Italo Svevo est convaincu que la vie est un spectacle, même s'il est triste et finit mal. Un autre trait marquant et spécifique à Italo Svevo est son addiction immodérée à la cigarette, un trait récurrent qu'on retrouve chez ses narrateurs. Et on n'a aucun mal à imaginer l'anti-héros de l'inertie de vivre, enveloppé d'un nuage bleuté qui lui tourne légèrement la tête, qui à chaque cigarette se répète que c'est la dernière et refait mécaniquement le geste, semblable à celui de tourner une page, de prendre une dernière, et laisse ainsi sa vie se consumer en fumée aux paresseuses volutes. Pour l'accompagner, les flots capricieux de la Moldau dans le poème symphonique de Smetana, Mavlast. Vous savez que la tradition au peuple lu est de laisser l'invité choisir le morceau. Aujourd'hui, l'invité m'a dit: Svevo est pour moi connecté à Claudio Magris, l'auteur de Danube, mais comme je déteste le beau Danube bleu, ce sera la Moldau, qui est un fleuve proche et qui a eu le mérite d'inspirer la Hatikva. Et ainsi, par saut de puce, on rejoint la conscience de Zeno. Ainsi donc, tout de suite, Mavlast, la Moldao, par Smetana, interprétée par l'Orchestre National Symphonique de Pologne. C'était Mavlast, la Moldao, par Smetana, interprétée par l'Orchestre National Symphonique de Pologne. L'invité avait raison, ces flots capricieux s'accordent bien au style si particulier d'Italo Svevo. La preuve tout de suite avec le troisième chapitre de la conscience de Zeno. Tenez-vous bien, nous plongeons dans les pensées les plus intimes du narrateur. Le docteur à qui j'en ai parlé m'a conseillé de commencer mon travail par une analyse historique de mon goût pour le tabac. Écrivez, écrivez, vous verrez comme vous arriverez à vous voir tout entier. Je crois que sur ce sujet, le tabac, je puis écrire ici à mon bureau sans aller rêver sur le fauteuil. Je ne sais par où commencer et j'invoque l'assistance des cigarettes, toutes si pareilles à celles que j'ai aux lèvres. Aujourd'hui, je découvre tout de suite quelque chose que j'avais oublié. Les premières cigarettes que j'ai fumées ne se trouvent plus dans le commerce. Vers 1870, on avait en Autriche des cigarettes qui se vendaient dans des boîtes en carton timbrées de l'aigle bicéphale. Ah, ah, autour d'une de ces boîtes se groupent aussitôt plusieurs personnes, et assez de leur physionomie pour que leur nom me revienne à la mémoire. Pas assez cependant pour que cette rencontre imprévue m'émeuve. J'essaye d'obtenir davantage et je m'en vais dans mon fauteuil. Les apparitions pâlissent et des bouffons qui se moquent de moi prennent leur place. Découragé, je regagne mon bureau. Une de ces apparitions, à la voix un peu enrouée, c'est Joseph, un garçon de mon âge, et l'autre mon frère, d'un an plus jeune que moi, et mort depuis bien des années déjà. Joseph recevait, je crois, beaucoup d'argent de son père, et il nous distribuait de ses cigarettes. Mais je suis certain qu'il en offrait beaucoup plus à mon frère qu'à moi. D'où la nécessité où je me trouvais de m'en procurer d'autres tout seul. C'est à cette occasion que je me fis voleur. En été, mon père laissait sur une chaise dans la salle à manger son gilet dont les goussets contenaient toujours de la petite monnaie. J'y prenais les 10 sous qu'il fallait pour acheter la précieuse petite boîte et je fumais l'une après l'autre les 10 cigarettes qu'elle contenait pour ne pas conserver le fruit compromettant de mon larcin. Tout cela reposait dans ma conscience à portée de ma main. Si ces souvenirs ne se réveillent qu'aujourd'hui, c'est que j'ignorais jusqu'à présent leur importance éventuelle. Voilà en tout cas enregistré l'origine de cette mauvaise habitude et, qui sait, peut-être en suis-je déjà guéri. Pour essayer, je vais allumer une dernière cigarette. Peut-être la jetterai-je aussitôt, dégoûtée. Je me rappelle qu'un jour mon père me surprit, son gilet à la main. Avec une effronterie que je n'aurais pas aujourd'hui et qui après si longtemps me dégoûte encore, qui sait si ce dégoût n'aura pas une grande importance dans ma cure, je lui ai expliqué que la curiosité m'était venue d'en compter les boutons. Mon père se mit à rire de mes dispositions pour la profession de mathématicien ou de tailleur et ne s'aperçut pas que j'avais les doigts dans un dégousset. À mon honneur, je puis dire que ce rire, provoqué par mon innocence, alors que cette innocence n'existait plus, suffit à tout jamais à me détourner du vol. Ou plutôt, j'eus encore l'occasion de voler, mais sans le savoir. Mon père abandonnait partout dans la maison des cigares Virginia à moitié fumés, en équilibre au bord des tables et des commodes. Je croyais que c'était là sa façon de les jeter, et je croyais même savoir que notre vieille servante, Katina, les faisait disparaître. Je les fumais en cachette. À la minute précise où je m'en emparais, une nausée m'envahissait. Je savais quel malaise ils allaient me donner. Après quoi, je me mettais à fumer jusqu'au moment où mon front se couvrait de sueur froide et où mon estomac se soulevait. On ne dira pas qu'étant enfant, je manquais d'énergie. Ce n'est pourtant pas autour d'un cigare ou d'une cigarette, mais d'un thé, que j'ai eu la chance de rencontrer Maître Marc Lipskier pour parler de son goût pour Italo Svevo. Maître Lipskier est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de l'innovation, enseignant à l'école des mines, fondateur de plusieurs entreprises, Verdi Ventures, Bamboos and Bees, de l'ONG Worlds of Blockchains et de nombreux autres.
Et donc aujourd'hui, pour parler d'Italo Svevo, nous avons la chance de recevoir Maître Marc Lipskier, spécialiste en droit de l'innovation, en innovation du droit et grand lecteur d'Italo Svevo.
Petit lecteur d'Italo Svevo, petit lecteur de toujours un petit lecteur.
Et justement, pourquoi cette idée de petit? Est-ce qu'on ne peut pas lire Svevo avec ambition?
On peut lire avec ambition, mais Svevo a peu écrit, donc on ne peut pas lire beaucoup de Svevo. Et puis c'est une littérature qui appelle à la modestie. On n'a pas de grandes ambitions en ouvrant Svevo, parce que Svevo, c'est une petite histoire. C'est l'histoire d'un type qui veut arrêter de fumer, et on lui a recommandé une méthode pour arrêter de fumer. Bon, franchement, à la base, c'est pas très intéressant, c'est très anecdotique. Et le produit de Svevo tient au fait que de l'anecdote va sortir peut-être 400 pages de la plus grande littérature du XXe siècle.
J'ai l'impression que résumer Svevo à « c'est l'histoire d'un type qui veut arrêter de fumer », ça serait comme résumer Proust à « c'est l'histoire d'un type qui mange de la madeleine trempée dans son pain ».
C'est un peu ça. C'est un peu ça. D'ailleurs, c'est leur parenté, lui emprunté. Ça part d'un point de détail. C'est un point de détail qui fait une vie, qui fait un fleuve de vie.
Alors pourquoi est-ce que nous, lecteurs, nous devrions nous intéresser à cette petite et très humble histoire d'un type qui veut arrêter de fumer ?
Il y a plein de raisons à mon sens. Toutes ces raisons que je vais évoquer sont des raisons personnelles. La première raison, qui est peut-être la plus frappante, c'est qu'à la fin de son œuvre, il a une intuition incroyable sur le sort et le destin de l'Europe. Il a une phrase, mais une seule phrase, qui évoque la possibilité de chambre à gaz. Il écrit en 1923, je crois, ou entre 19 et 23. Et parce qu'il contemple la fumée de ses cigarettes, il prévoit que lorsqu'on aura fini de construire des bombes, on construira des chambres à gaz. Et cette phrase qui se trouve dans le dernier chapitre du roman, elle saisit des froids. C'est probablement jamais qu'une intuition et pas une prophétie. Peut-être même que ce n'est juste qu'une phrase, mais la phrase en tant que telle est extraordinaire. Ça, c'est la première raison.
Les deux... C'est aussi une métaphore entre un état gazeux de la matière, un état gazeux de la société.
Bien sûr, c'est pour ça que j'évoque la possibilité que ce ne soit qu'une phrase. Mais la phrase, si on la sort de son contexte et du contexte du livre, elle est terrifiante. Parce qu'on a réellement l'impression que ce type, en Italie, a pensé la Shoah avec une grosse vingtaine d'années d'avance. Non, une petite vingtaine d'années.
Il a l'air très pessimiste, comme vous l'avez décrit.
Non, il n'est pas du tout pessimiste. Il n'est ni pessimiste ni optimiste. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'essayer de voir, d'avoir les yeux grands ouverts sur l'évolution de son monde intérieur, guidé par la fumée de sa cigarette. J'avoue que pour ma part, c'est un roman qui m'a fasciné. Il m'a tellement fasciné que je l'ai lu il y a à peu près 30 ans ou 31 ans, presque jour pour jour. Je m'en souviens parce que je le lisais au Jardin de Luxembourg et que je peux voir de l'endroit où nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant au Café Rostand. Je peux presque voir la chaise sur laquelle j'étais assise en face du bassin. Et c'était un jour où j'avais un examen de fiscalité internationale. Et cet examen, je l'ai raté grâce ou à cause de Zévo. Parce que je voulais finir le livre. Et je me souviens d'avoir remonté à toute vitesse la rue Soufflot pour aller à la fac de droit, en finissant les dernières pages du livre, et d'arriver dans l'amphithéâtre d'examen en n'ayant pas encore fini, et donc en commençant mon examen en disant encore Zévo. J'ai vu que tu as des courses, j'ai eu 4. Je devrais prendre en
vous. Je crois que ce soit la meilleure des antithèses.
C'est pas la meilleure des antithèses pour la fiscalité internationale. Et aux étudiants qui...
Quoique Italo Svevo a été commerçant, bon, a planté quelques entreprises, et a été commerçant international.
Oui. Et je ne sais pas si c'est un bon motif pour les Svevo. Et puis j'ai un vécu très particulier qui est lié à cette époque-là et à Svevo. Il se trouve que le mois d'avant l'examen de fiscalité internationale dont je vous parlais, j'ai participé à un convoi vers Sarajevo, qui était à l'époque sous les tirs des Serbes et des Croates, vers Sarajevo, un grand convoi, et que nous sommes passés par Trieste, qui est la ville de Svevo, en tout cas la ville dans laquelle se déroule ce roman. Nous arrivons à Trieste, un grand beau méditerranéen, un temps splendide, 25 degrés, alors que nous étions en plein hiver. On fait quelques kilomètres en sortant de Trieste et donc en sortant d'Italie, on passe en Slovénie, la route serpente et tout de suite on passe dans des montagnes et là il y a un immense brouillard. Le paysage devient glacé, mais vraiment presque en une fraction de seconde. Donc on est sur la frontière, on sent bien qu'on passe une frontière, même si ce n'est pas une frontière humaine, c'est au moins une frontière géothermique. Et on sent bien que Svevo est un homme qui a vécu sur la frontière et que c'est cette pensée de la frontière, cette connaissance intime de la frontière qui va lui faire écrire tout ce qu'il a écrit dans ce roman. Et c'est de cela que, à mon sens, ce roman a permis d'irriguer une grande partie de la littérature européenne qui a compté au XXe siècle.
C'est un auteur plus inter que national.
Ah, c'est pas du tout un auteur national. D'ailleurs, il faudrait écrire une thèse sur le nationalisme chez Svevo, mais je souhaite bien du courage au doctorant en question. Il n'a pas de pensée nationale.
Et puis c'est plus un auteur de la fumée que du brouillard, je dirais.
C'est plus un auteur de la fumée que du brouillard. C'est très bien vu.
Il rapporte à la première personne.
Il rapporte à la première personne. Donc le brouillard n'est pas extérieur. Quoique peut-être son cerveau est-il un petit peu embrumé par moments.
Justement, qu'est-ce que tu penses de ce titre, La conscience de Zénon ?
Je crois que c'est le plus beau titre qu'on ait fait dans toute l'histoire de la littérature.
C'est un titre qui justement est très personnel. On a déjà le nom du personnage et du narrateur.
Il a presque la beauté d'un titre de Marguerite Yourcenar, qui elle aussi s'y connaissait en matière de brume.
Parmi les successeurs de Suevo que tu me citais tout à l'heure, justement, il y avait Joyce, l'auteur de Ulysse, tu me citais Proust. Quelle est la filiation que tu vois?
Ce sont des auteurs de la marche. Chez Suevo, on n'aura pas du tout la vision sociale qu'on a chez Proust, par exemple. Proust, on peut le voir simplement comme un reporter, un journaliste qui décrit la société de son temps, les sociétés de son temps. On n'a pas du tout cet aspect-là chez Zéro. En revanche, pour ce qui concerne les évolutions intimes, internes des personnages, comment d'évolution interne en évolution interne, il va espérer un grand changement chez lui. On voit ça très bien chez Ulysse qui, lui, opère ses changements en une seule journée, en déambulant à travers Dublin.
J'aurais très envie de demander, est-ce qu'on peut imaginer Suevo heureux?
Je ne comprends pas cette question. Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur.
Et je pense que c'est déjà une réponse. Marc Lipsier, si tu avais une œuvre de Suevo à recommander, une manière de commencer son œuvre pour quelqu'un qui ne l'aurait pas encore vu, qu'est-ce que ce serait ?
Suevo a très peu écrit. Il a écrit 3 livres ou 2,5 livres selon la manière dont on les compte. Il a écrit un premier livre relativement court qui s'appelle Senilita, qui est son tout premier livre, qui est peut-être le plus difficile par lequel commencer. Et puis il y a La conscience de Zénon, qui est un livre très facile à lire, qui est un livre absolument fascinant.
Qui a maturé pendant 20 ans.
Qui a maturé pendant très longtemps. Il a mis 4 ans ou 5 ans à l'écrire après la Première Guerre mondiale. Et c'est le génie absolu. Et puis il y a Ma vie, qui est un livre par lequel je recommande de ne pas commencer la lecture de Zénon. Dans La conscience de Zénon, c'est l'idéal. En plus, elle se trouve en folio, je crois. Donc c'est à la portée de toutes les bourses.
Et est-ce qu'il y a une manière de lire Suevo ? Est-ce qu'il se lit dans son bain ? Est-ce qu'il se lit avant de se coucher ? Est-ce qu'il se lit dans le métro ?
Moi, je l'ai lu au Jardin du Luxembourg, au lieu de préparer un examen de fiscalité nationale. Donc je pense qu'on peut le lire n'importe où et dans n'importe quelle condition, tellement c'est passionnant. Dans le bain, pardon, si ça fait beaucoup de vapeur, on sera en condition. De nos jours, on ne fume plus dans les cafés, mais si on fumait encore dans les cafés, on pourrait très bien imaginer de lire Zévo en ayant une cigarette au bec.
Allez, une dernière question. À qui est-ce que tu offrirais La conscience de Zévo ?
À une femme que j'aimerais très fort et qui serait très intelligente.
Très belle conclusion. Merci beaucoup, Marc Lipsier, pour cet entretien.
Avec plaisir.
Autour d'Italo Suevo. Merci et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le prochain épisode du Peuple Lu.
Le Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sigoni.